Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Véronique Arouel à rejoindre la tribune. Elle va nous faire une présentation de l'accueil d'un souvenir de Solferino dans la France impériale. Véronique est historienne du droit. Elle a publié son doctorat. La publication est d'ailleurs à consultation sur la table à l'extérieur. Maître de conférence à l'Université de Paris 8, elle va nous présenter maintenant, est-ce qu'elle est dans la salle, Véronique? Oui, ce sujet passionnant. Vous avez la parole, Véronique.
Merci, Madame la Présidente. Oui, donc je vais vous traiter de l'accueil du souvenir de Solferino dans la France impériale. Alors, en 1862, lors de sa parution, le souvenir de Solferino concerne tout particulièrement la France, d'où donc l'intérêt de rechercher quel a été l'accueil du livre en France. En effet, en 1759, vous le savez tous, c'est en cherchant à rencontrer Napoléon III qu'Henri Dunant arrive à Solferino le lendemain de la bataille. Et puis c'est à Paris, en décembre de la même année, que le Genevois se lance, je cite ses mémoires, dans une véritable propagande avec un certain succès qui le conduit en effet, dès janvier 1860, à exposer ses idées à la Société française d'ethnographie. Une fois paru en 1862, l'ouvrage de Dunant est reconnu pour l'importance de ses propositions, mais aussi pour sa qualité littéraire, notamment par les frères Goncourt. Alors, le livre n'était alors pas commercialisé, mais on a envoyé de très nombreux exemplaires à l'ensemble de ses connaissances, ainsi qu'à toutes les personnes qui comptaient dans la société française. Et cela lui a valu de nombreuses lettres, tant de particuliers que d'officiels politiques ou militaires. Et cela a permis au livre et à son message de se répandre dans la société. La mise en vente de la troisième édition en 1863 a accru le phénomène, grâce notamment à la presse, qui en a fait un large écho. Alors, je vous propose de voir dans un premier temps les nombreuses lettres favorables donc au livre. Et parlons tout d'abord de l'accueil des notables. Alors, en décembre 1862, un certain Mirabeau de Genève se plaint auprès de Dunant d'avoir reçu l'ouvrage en retard et lui demande un autre exemplaire pour ses enfants vivant à Paris. Puis, il lui suggère de réaliser une deuxième édition de son livre pour le mettre en vente et lui prédit tant le succès, tant auprès des gouvernements que du public. Alors, l'article de Saint-Marc Girardin, sorti en février 1863 dans le Journal des débats, a eu un grand retentissement. Aussi, le lendemain de sa parution, Mirabeau de Paris, de Genève, pardon, félicite Dunant d'avoir été, je cite, publié très chaleureusement par un savant aussi distingué, aussi apprécié. Et puis Mirabeau Bonnet, donc cette fois de Paris, lui assure, je cite, que c'est mieux qu'un beau livre, c'est une belle action, un témoignage rendu à cet esprit de charité que le Christ a laissé sur terre. En mars, Cuvillier Fleury, qui était un des rédacteurs du Journal des débats jusqu'en 1860, Cuvillier-Fleury remercie Dunant de son livre, dont il a naturellement lu des extraits dans l'article de Saint-Marc Girardin. À la même période, Frédéric Passy, qui lui aussi connaissait l'existence du livre par le Journal des débats, explique à Dunant combien sa lecture lui a été pénible, tant, je cite, « il fait voir et toucher dans toute son horreur le mal de la guerre ». Toutefois, il ne semble pas que Frédéric Passy ait voulu en noter toute l'importance. Encore en décembre 1862, Tournier, maire du Culoz, remercie Dunant en son nom et au nom du curé qui a également reçu le souvenir. Et Tournier lui assure, je cite, que rien ne paraît devoir s'opposer à sa libre circulation. D'autant que c'est le récit agréable, la mise en scène énergique d'un des plus beaux faits d'armes de notre armée. Il semble que le maire de Culoz n'ait pas entièrement lu le livre de Dunant, ou bien un peu trop vite. Quant au courrier de Rény, qui écrit de Chambéry, il a dû aller droit au cœur de Dunant. Rény lui écrit en effet qu'il fallait montrer dans toute leur triste réalité les suites funestes de la guerre pour appeler l'attention des chrétiens sur les moyens d'adoucir autant que possible des maux hélas inévitables. Vous l'avez fait avec cœur et talent, et votre livre est une bonne action, écrit-il. À l'été 1863, après avoir soumis à Dunant un article qui a reçu son approbation, Rény lui écrit l'avoir remis à l'abbé Mermillon, en partance pour Paris, afin qu'il le propose à la Revue catholique. En outre, à Chambéry, Rény s'est adressé au rédacteur du Courrier des Alpes, qui lui a promis un article. Alors toutefois, nous n'avons trouvé de compte-rendu ni dans la Revue catholique, ni dans le Courrier des Alpes. Le franco-genevois François Bartholoni se montre quant à lui quelque peu critique dans la lettre qu'il adresse à Henri Dunant en janvier 1863. En effet, Bartholoni y conteste la possibilité d'organiser d'avance des secours suffisants et lui affirme, je cite, « C'est à la guerre elle-même qu'il faut s'attaquer pour la rendre aussi rare que possible ». Et il explique, je cite encore, que les chemins de fer, les traités de commerce y aideront sans doute. Alors Bartholoni reprend ici un des grands arguments des économistes de l'école classique auquel Frédéric Passy adhérait. Mais contrairement à Passy, Bartholoni aidera Dunant à Paris et il aidera l'ensemble du comité à Genève. Alors en effet, Henri Dunant, notamment, va conquérir la noblesse royaliste et catholique grâce à Bartholoni et au comte de Circourt. En mars 1863, Hubert écrit aux Genevois, je cite, qu'il est le créateur d'une œuvre vraiment chrétienne et nécessaire. En avril, le comte Adolphe de Circourt remercie et félicite Henri Dunant pour son ouvrage, tout en citant le nom de son ami, le comte Félix de Bréda, très occupé par des préoccupations comparables. Ce dernier lui écrit aussitôt vouloir participer, hein, je cite, « sa belle œuvre si vaillamment entreprise ». Louise Belloc fera de même. Quelques semaines plus tard, Sickel Köchlin de Mulhouse offre son aide à Dunant et lui demande un exemplaire de son livre pour son ami Jean Massé. Or, ce dernier se dit très vite prêt à devenir le premier secrétaire de l'œuvre en Alsace, tout en lui indiquant qu'il va faire venir de Paris plusieurs exemplaires du souvenir de Solferino pour les bibliothèques communales dont il s'occupe. Et il le recommandera partout, lui assure-t-il. En 1864, Dunant reçoit encore des lettres montrant combien son action en Italie et son livre ont marqué les esprits. Ainsi, en juillet, un horloger de l'armée française, Marco Dormier, qui avait été enrôlé par Genevois à Solferino, lui raconte avoir vu bien des personnes soit ignorer la présence des blessés, soit peiner à comprendre comment Dunant pouvait en secourir autant. Et Margot Dormier lui explique qu'avec son action et son livre, il a, je cite, « donné la preuve que l'amour du prochain est le meilleur de tous les médecins ». Alors, dans ses mémoires, Henri Dunant se souvient qu'en rendant compte de son livre dans l'économiste français, Louise Belloc a fait connaître ses idées au monde libéral. Il note aussi que la comtesse de Saint-Aulaire a aidé à propager les idées du souvenir dans le monde orléaniste du faubourg Saint-Germain. Il cite le duc de Breuil, qui parla du souvenir à l'Institut de France, et surtout, Il rend hommage à Augustin Cochin, qui avait parfaitement compris le caractère de l'œuvre, je cite, à la fois internationale, interconfessionnelle et sans couleur de parti politique. Dunant se souvient qu'il lui fit rencontrer en 1863 et 64 de nombreuses personnes, dont le comte Charles de Flavigny, lequel enrôla ses proches. Alors, nous allons maintenant envisager les réactions des officiels à l'ouvrage de Dunant. En décembre 1862, le général Nicolas Devaux a dû décevoir Henri Dunant en ne retenant que la première partie de son livre, mettant en exergue, je cite, « les mérites des trois armées ayant combattu à Solferino ». Dans le même temps, le général Joubert, premier attaché au cabinet de l'empereur, écrit à Dunant au sujet de son remarquable ouvrage. En janvier 1863, le cabinet de l'empereur remercie Dunant au nom de Napoléon III, lequel lui assure-t-on y a fait, je cite, le plus bienveillant accueil, ainsi qu'à son ouvrage sur l'Empire romain. En février, Richard Cortambert écrit à Dunant de la Bibliothèque impériale. Il connaît l'ensemble des ouvrages du Genevois qui, assure-t-il, jouissent du rare privilège d'être fréquemment tirés des rayons de la bibliothèque et d'être toujours lus avec un nouvel intérêt. En mars 1863, le colonel Ribourg du ministère de la Guerre remercie du nom de l'envoi de son livre en plusieurs exemplaires et affirme, je cite, que son Excellence partage les sentiments sympathiques qui lui ont été exprimés de tous côtés sur le but philanthropique de cet ouvrage dont elle voit avec plaisir s'étendre le succès. Alors, sans doute le colonel n'a-t-il pas vraiment demandé l'opinion du ministre Randon qui y voyait un livre, je cite, fait contre la France. Mais sans doute aura-t-il plutôt suivi l'envie de l'empereur. L'idée de constituer des sociétés de volontaires laisse perplexe Henri Brière, médecin de division de l'armée impériale, qui écrit en février à Dunant que, certes, je cite, « son idée de formation de société de secours pour les blessés est des plus généreuses et des plus philanthropiques, mais qu'il doute fort qu'il soit possible de former des sociétés pareilles en temps de paix pour des besoins qui n'existent pas encore et n'existeront peut-être que dans bien des années. » Mais le Genevois, qui a déjà lu ou entendu ce type d'argument, ne se laissera pas influencer par un tel courrier. Alors, beaucoup plus significative pour Dunant est la longue lettre que lui adresse en mars le général Trochu. En effet, ce militaire qui a joué un rôle déterminant lors de la bataille du 24 juin lui montre qu'il a parfaitement saisi son objectif. Je le cite. Le récit de la bataille de Solferino n'a d'ailleurs dans votre livre qu'une place très étroite. Vous n'en avez parlé, et je vous en loue, qu'autant qu'il était nécessaire pour lier les faits entre eux et arriver à votre objet qu'on pourrait définir la philosophie du champ de bataille et de l'ambulance après la bataille. Ici, monsieur, je suis tout entier avec vous, écrit-il. Alors, voyons maintenant l'accueil de la presse au souvenir de Solferino. Et évoquons tout d'abord une presse protestante positive, mais parfois critique. Alors, notons en effet que la presse protestante est la seule presse confessionnelle à avoir réagi, tout au moins en France. Alors, le disciple de Jésus-Christ publie en 1863 un rapide compte-rendu du souvenir lors de la parution de la troisième édition. Son auteur insiste sur le fait que ce livre est un des rares à mettre en exergue les horreurs de la guerre, mais il semble perplexe sur, je cite, la pensée chrétienne et le philanthropique espoir de Dunant, à savoir, à faire diminuer les maux de la guerre à l'aide, je cite, d'une association internationale qui fournirait aux armées un nombre suffisant d'infirmiers volontaires. Aussi conclut-il en espérant que le développement de la civilisation produira encore mieux que cela. En mars 1863, Coquerel consacre un long passage aux souvenirs dans Le Lien. Un livre excellent, écrit-il, dont l'auteur, un touriste genevois, a assisté à la bataille de Solferino du haut des collines de Castiglione. Puis, une fois que les armes se sont tues, il a, je cite, rendu aux blessés tous les services qui dépendaient de lui. Mais il a été navré de tout ce qu'il a vu. En effet, promptitude, adresse, connaissances indispensables, persévérance, tout cela, dans un grand nombre de cas, a fait défaut, malgré la bonne volonté et le dévouement des habitants, explique Coquerel. C'est pourquoi Dunant, je cite, propose que d'avance, en temps de paix, il soit créé des sociétés de secours pour les blessés et qu'un corps d'infirmiers volontaires soit adjoint à toute armée belligérante. Coquerel assure que le projet de Dunant a reçu la sanction de Florence Nightingale et du général Dufour. Alors, toujours en mars, un article non signé paraît dans Le Témoin de la vérité à la rubrique Revue de livres. Son auteur assure que c'est le récit de la bataille que c'est après. Le récit de la bataille que le Genevois crée la sympathie. Et il reproduit quelques lignes du livre montrant Dunant au chevet d'un des blessés de Castiglione. Puis il reprend les passages les plus importants du souvenir, comprenant ces deux suggestions, et relève que, je cite, le vœu de M. Dunant a été entendu et paraît avoir été pris en sérieuse considération. Nous accompagnons de nos voeux la généreuse initiative qu'il a prise et nous espérons qu'elle amènera d'heureux résultats. Au mois d'avril 1863, la revue des archives du christianisme fait également paraître un compte-rendu de l'ouvrage. Son auteur écrit donc souhaiter le succès de l'idée tout en regrettant de ne pas avoir lu dans l'ouvrage, je cite, le sentiment religieux et chrétien directement exprimé. Toutefois, il écrit comprendre que Dunant, je cite, ait craint de donner à son livre destiné à tous sans distinction une couleur protestante. Il rappelle néanmoins qu'à côté des blessures physiques auxquelles Dunant s'intéresse, il y a l'âme du blessé et son devenir, dont il ne paraît pas s'être préoccupé. En mai, l'Espérance publie à son tour un long compte-rendu très positif de Moulines, annonçant la troisième édition du Souvenir. Dunant, explique-t-il, je cite, a écrit les pages émouvantes qui ont déjà obtenu un si juste retentissement. Il n'a pas raconté pour le plaisir de raconter. Il s'est proposé un but pratique. Il a voulu faire sentir aux autres un besoin dont il est lui-même profondément touché et provoquer par là un nouveau déploiement de charité. Sous ce rapport, il est vrai de dire que son livre n'est pas seulement un bon livre, il est une bonne action. Alors, très enthousiaste, Moulines note que plusieurs cours européennes ont promis leur patronage et la sympathie du gouvernement français en particulier n'a pas fait défaut à cette bonne œuvre. Nous faisons des vœux pour que notre protestantisme y prenne part, conclut-il. Alors voyons maintenant une presse militaire positive. En février 1863, Le Luyer Morvan publie un article dans Le Spectateur militaire sur l'ouvrage de Dunant, dont il cite plusieurs passages et notamment ses deux suggestions. L'auteur reproche par deux fois à Dunant de n'avoir pas fait en sorte qu'il puisse être lu par l'ensemble du public. À côté de cela, il mentionne, je cite, « la reconnaissance que lui doit l'armée française pour son dévouement auprès des blessés de la campagne d'Italie ». Le Luyé-Morvan applaudit aux idées du jeune voix, tout en prévenant que ni des femmes ni des civils n'entreront sur un champ de bataille. De là, il suggère que ces derniers soient chargés des hôpitaux et ambulances fixes de l'armée. Ainsi, seuls les médecins militaires attachés aux ambulances volantes donneraient les premiers secours sur les champs de bataille aux blessés relevés par les infirmiers militaires. Et le Luyé-Morvan marque clairement son opposition à l'intendance qui, contrairement à l'avis de M. Dunant, ne doit pas avoir à diriger une telle organisation. Alors cet article, on le voit, fait écho aux grandes questions que se posent les autorités militaires et politiques face à l'idée de Dunant. Et cela se retrouvera lors des débats de la conférence de 1864. En septembre 1863, le Moniteur de l'armée publie également un article sur le souvenir et ses premières conséquences. Un jeune homme qui a assisté comme simple touriste à quelques-uns des grands épisodes de la guerre d'Italie, M. Jean-Henri Dunant, a publié sous le titre de « Souvenirs de Solferino » un livre qui devait réussir et qui a réussi, écrit Farcy. Puis il présente Dunant visitant les hôpitaux improvisés où étaient soignés avec une égale sollicitude amis et ennemis, mais où dans les premiers temps, les moyens de secours se sont avérés insuffisants. Puis Farcy résume la première proposition de Dunant et présente le projet de convention devant être discuté en octobre à Genève. L'auteur en approuve l'objectif et estime que de nombreuses personnes souhaiteront se consacrer à une telle œuvre. Alors, évoquons enfin une presse politique favorable au message du souvenir. Alors, le journal des débats du 24 février 1863 fait paraître, on le sait, un article fort élogieux de Saint-Marc Gérardin. Je voudrais que ce livre fût beaucoup lu, surtout par ceux qui aiment la guerre. Non que l'auteur soit un ennemi systématique de la guerre, de même qu'il peint avec beaucoup de vivacité et d'enthousiasme le courage admirable de nos soldats, il peint aussi avec beaucoup d'émotion et de pitié les scènes de souffrance et de douleur qu'il a vues. La sensibilité de M. Dunant en face de tant de malheurs n'a pas été oisive. Il a soigné et pansé les blessés de ses mains, les Français et les Autrichiens. Il sait bien qu'on ne peut pas détruire la guerre, mais il voudrait qu'on puisse entendre, autant que possible, pour en diminuer les épouvantables souffrances. Il déclare que l'intendance militaire française est très bien organisée, que notre service médical est plein de zèle, d'activité, de dévouement. Mais s'il n'y a pas assez de monde pour relever les blessés et pour les soigner. Et comme il est de Genève, c'est-à-dire d'un pays dont les citoyens ne sont pas assez riches pour se faire servir par l'État en toutes choses, comme il est habitué aux associations, aux réunions, aux œuvres spontanées et volontaires, il demande qu'il se forme en Europe des associations de secours pour les blessés. Tous ceux qui liront le souvenir de Solferino de M. Dunant seront, je crois, très disposés à entrer dans des associations de ce genre. Mais peu de personnes le liront. Le livre ne se vend pas. Aussi, c'est, je pense, le devoir de tous ceux qui le liront de le citer, de le répandre. C'est ce devoir que je veux remplir. Puis, Saint-Marc Gérardin cite de longs passages du livre, sans pour autant reproduire les deux suggestions de Dunant. En mars 1863, Gentil de Bussy rédige dans l'Union un article sur le souvenir de Solferino, un titre peu ambitieux, écrit-il, mais dans lequel l'auteur expose un objectif aussi louable que généreux, adoucir les souffrances de l'humanité. Dès lors, peu importe qu'il ait été publié à Genève, note Gentil de Bussy. D'ailleurs, je le cite, « En fait, de soulagement des misères humaines, quelle que soit la cause qui les produise, la religion catholique ne se laisse devancer par aucune autre », assure-t-il. Estimant sans doute qu'elles auraient dû venir de France ou d'Italie, il ne dit rien des propositions du nom. Toutefois, en juillet 1864, il écrira que Dieu a béni l'œuvre de l'auteur du souvenir. Louise Belloc signe un bel article dans l'Économiste français du 10 avril 1863. Elle reprend deux passages du livre et évoque le dévouement du Genevois ainsi que des Italiennes. Toutefois, explique-t-elle, Dunant démontre, je cite, la nécessité d'une organisation régulière pour diriger ces bons vouloirs spontanés que paralysait trop souvent le défaut d'unité, le manque de prévoyance attentive qui eût fait affluer le linge, la charpie, les soins, là où ils étaient le plus nécessaires. D'où son idée, je cite, de voir se former dans les divers pays de l'Europe et au-delà des sociétés de secours pour les blessés. Ces pieuses associations, appelées à s'entraider, sèmeraient ainsi des germes d'union. Qui sait si elles ne seraient pas le plus sûr acheminement à la paix universelle, conclut-elle. Louise Belloc publie un autre article en septembre. Oh, j'ai perdu le temps. Encore sa ligne ? Oui. Donc, elle mentionne que l'appel fait avec tant d'autorité et de louable assistance par Henri Dunant de Genève, dans son remarquable ouvrage, a rencontré partout la plus vive sympathie. Bon, ben, je vais sauter quelques lignes et conclure. Un souvenir de Solferino a bénéficié donc d'un très bon accueil des particuliers et de la presse. Alors à l'époque, les journalistes ignorent qui est Dunant et ne savent pas toujours comment nommer les sociétés de secours. Et toutefois, nombre d'entre eux sont informés par le comité de Genève, notamment sur la tenue de la conférence d'octobre de 1863 et sur ses objectifs. Les journaux politiques et militaires comprennent et approuvent globalement les idées de Dunant. Quant aux publications protestantes, elles regrettent parfois l'absence de référence au protestantisme. Alors, de leur côté, les revues catholiques et juives ignorent le Genevois et ne publient donc rien, aucun compte-rendu de son livre. Cela n'empêche pas les hommes d'adhérer à ces idées, quelle que soit leur religion. Alors, autant que les revues franc-maçonnes françaises ne mentionnent pas non plus l'ouvrage, de même que Frédéric Passy n'a rien écrit sur le souvenir. Et Élisée Reclus s'est abstenue pour des raisons politiques. Alors, la Croix-Rouge n'est pas encore née, elle transcendra ses appuis. Je vous remercie.
Merci Véronique pour ce voyage en France, de Mulhouse à Culose, de Lyon à Paris, de la presse, échanges épistolaires, les milieux religieux, les milieux politiques, les milieux avisés. Ça a été un beau voyage. Est-ce que dans ce voyage, il y a des questions ou est-ce que... Oui, monsieur ?
Avant de tout, vous avez raison, je n'ai pas écouté ce nom, je n'ai pas
C'est beaucoup plus tard.
Oui, là je sais.
Effectivement, Victor Hugo va envoyer un petit mot à Henri Dunant. Je crois que c'est presque 10 ans après. Il y a une toute petite lettre où Hugo écrit à toute vitesse et on l'a mal lu parce que je crois qu'il dit « Vous faites... »
Vous armez l'humanité et c'est ce armée qui a été contesté comme une faute de lecture et on aurait pu dire « Vous aimez ». Moi,
je
n'ai pas
le
plus grand souvent avec ma question. Mais je dis quand même. Vous avez obtenu l'humanité, la mémoire de François, les savages. C'est plus tard. Et à l'époque qui nous intéresse, Hugo n'a pas de tribune, il est un exilé.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur?
Est-ce que je suis très intéressé évidemment par l'hypothèse qu'il y ait une lecture catholique et une lecture protestante de souvenirs. Je crois que c'est une grande question qui survit aux années qui suivent la parution, qui va continuer plus tard, et qui va se reposer notamment dans des églises ou catholiques ou protestantes. Pour faire la différence entre les guerres justes et les guerres injustes. Alors, ça me rappelait un peu le débat entre Rousseau et Voltaire. Qu'est-ce que Dieu veut, au fond ? Dieu a inspiré le livre Henri Dunant. Dieu a béni le livre d'Henri Dunant. Finalement, ça laisse entendre que Dieu veut à la fois la guerre et les moyens d'adoucir la guerre. Est-ce qu'on peut en sortir ? Je crois que le problème avait été posé dans le face-à-face Voltaire-Rousseau sur le désastre de Lisbonne. Voltaire disant il y aurait moins de morts si les gens avaient plus de stupidité de construire au moment où ils ont construit. Et Rousseau répond mais non, c'est pas de la faute de l'homme, c'est Dieu qui a décidé. Et si on n'admet pas que Dieu a décidé le malheur, il n'y a pas de compassion possible, dit Rousseau dans sa réponse à Voltaire. Donc, j'ai l'impression que c'est un débat de fond. Hein, soulève les nuances de réception que nous avons tracées. Je trouve ça très fécond comme réception, comme chantier.
C'est vrai que le Vatican ne ratifiera la Convention de 1864 qu'en 1866. Mmh. Néanmoins, Mgr Berlio, Mgr Dupanloup sont très favorables aux opinions de Dunant, au message de Dunant tout de suite, d'emblée.
Alors lui, là aussi, en vous écoutant, je pensais... Dunant faisait le reproche à Moynier de avoir fait de la Croix-Rouge une machine trop protestante qui aliénait les catholiques. Et dans son argument à Moynier, il disait, voyez, si vous n'aviez pas pensé de cette manière, les cantons protestants de la Suisse auraient été ralliés plus vite. Et c'est grâce à moi que les catholiques français ont été ralliés les deux de Croix-Rouge. Est-ce que vous avez vérifié cette... Ou bien est-ce que c'est une stratégie dans les milieux un peu conservateurs?
Je pense qu'en France, Henri Dunant a cherché à toucher, entre guillemets, l'ensemble des notables de la société, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs également.
Monsieur voudrait.
Oui, juste une toute petite remarque, en passant, puisqu'on parle de l'attitude des catholiques, le Vatican refuse de venir à la conférence de Genève. Très tôt, en expliquant que le Vatican ne s'occupe pas de la guerre, mais de la paix, qu'il ne veut pas s'occuper de la guerre, ce qui est évidemment un tout petit peu bizarre, puisque le Vatican a une armée, et que l'État du Vatican va disparaître dans la guerre suivante. Mais là, je crois aussi qu'il faut quand même qu'on se rappelle, parce qu'on a peut-être un peu oublié, ma mère était élevée protestante, donc très catholique valaise, c'était dans les années 1920, il y a une hostilité entre catholiques et protestants en France, en Suisse, qui est considérable. Et c'est vrai que tous les fondateurs de la Croix-Rouge dont on a parlé sont des protestants. Ils ont gommé autant qu'ils ont pu cet aspect-là, mais évidemment, ils sont reçus comme protestants dans les milieux catholiques, à l'exception, enfin, il faudrait étudier le cas espagnol, parce que les Espagnols sont... Ils sont tous catholiques et de langue espagnole. Il n'y a pas des protestants de langue espagnole comme il y a des protestants de langue française ou des catholiques de langue française. Et où, au fond, les Espagnols, eux, ils ont accueilli le souvenir, comme un livre, je pense que Manu Colomb, qui apporte une solution à un vrai problème.